Je suis content de vous revoir ce matin. Ça fait plaisir de vous revoir. C'était bien de se reposer, mais c'était bien de vous revoir. Donc voilà, on avait pris quelques jours de repos entre guillemets, j'ai envie de dire, mais c'était agréable. On était avec des personnes qu'on ne connaissait pas, des chrétiens, ça c'est bien, mais qu'on connaissait pas. Mais ce qui est beau quand on est chrétien, finalement, c'est que très rapidement, on connecte très très facilement. Pourtant, on était très très différents les uns des autres, mais c'était aussi un très bon moment ensemble. Voilà, je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu ce matin et de continuer un petit peu. Voilà, ce matin, nous allons parler d'un sujet, et puis nous allons, c'est encore deux dimanches peut-être, et puis nous allons conclure la série sur les obstacles de la sanctification liés à l'influence du monde. Et ce matin, je vous propose d'ouvrir et de prendre vos Bibles. On va parler et je vais lire qu'un verset ce matin. Sur ce verset qu'on va s'arrêter. Dans le livre des Juges, au chapitre 21, Juges chapitre 21, verset 25. Je vous propose de prendre vos Bibles. Je vais mettre le passage, mais vous aurez comme ça tout le contexte que je ne lirai pas ce matin, mais que vous pourrez relire chez vous cette semaine pour mieux comprendre un peu tout ce passage du livre des Juges. Juges chapitre 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu une prédication sur ce verset. On est à la fin du livre des Juges. Et le livre des Juges, c'est un livre assez particulier, mais avant d'introduire ce message, je voudrais vous raconter une histoire. L'histoire d'un professeur qui va faire une expérience sociale dans une classe et qui va dire un jour, aujourd'hui, il n'y a pas de règles. C'est ce qu'il va dire à ses élèves. Il n'y a pas de règles, c'est vous qui décidez. Vous imaginez la réaction des élèves, qui du coup au début sont très euphoriques. Puis il va y avoir du bruit, puis il va y avoir du désordre, et puis à la fin, ça va être le conflit, le chaos. Et à la fin, un élève va dire, on croyait que ce serait la liberté, mais en fait, c'est le chaos qui règne. Chacun fait ce qu'il veut. En 1996, j'étais jeune, mais je m'en rappelle encore, et ceux qui sont plus âgés, vous allez vous en souvenir, sortait un film, Un Indien dans la ville. Et avec ce film, il y avait une chanson qui rentrait dans la tête, Chacun sa route. Chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Et c'est entraînant, hein, c'est une musique très entraînante. En préparant cette prédication, je l'avais en tête. Bon, c'est comme ça. Et elle chante à quelque part la soif de liberté totale des hommes, qui est beau, mais qui est bien utopique. Mais que dit la Bible quelque part par rapport à cela? Alors c'est une chanson, hein. Je ne suis pas ce matin en train de critiquer cette chanson. Cette chose soit, elle défend rien, hein, mais elle parle de quelque chose. Mais quelque part, j'ai envie de nous poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que la Bible nous présente? Est-ce qu'en suivant chacun notre propre route, notre propre chemin, on finit par se rejoindre ou par se rentrer dedans? Et l'expérience de la classe nous montre qu'après l'euphorie, c'est souvent le chaos qui s'installe. Quand chacun fait ce qu'il veut, de bonne volonté, hein. En respectant l'autre, mais en fait, c'est le chaos qui arrive. C'est ce que raconte exactement le livre des Juges et ce verset. Et j'ai intitulé du coup le message de ce matin, chacun sa route, chacun son chemin, vraiment, point d'interrogation. Je pose la question, qui décide aujourd'hui de ce qui est bien ou de ce qui est mal? Dans notre société qui n'a pas Dieu, hein. Qui décide aujourd'hui de ce qui est bien, ce qui est mal? Finalement, chacun a sa propre définition du bien et du mal. On pourrait dire c'est l'État, mais l'État, il change. Et en fonction des époques, c'est différent. Ceux qui vont croire que c'est la loi, en 1940, sous la guerre, la loi a été différente. Hein. Et ce n'est pas la loi qui fait le bien ou le mal. C'est qui, du coup? Bah, c'est l'homme. Du coup, l'homme livré à lui-même décide, et c'est aujourd'hui le cas dans notre société, de ce qui est bien ou mal, bien sûr en rentrant dans le cadre de la loi, mais finalement c'est très abstrait. Et ça peut varier en fonction de chacun. Et quelque part la question, je vous pose cette question, si chacun a sa vérité, que fait-on quand deux vérités s'opposent? Quelle est la base finalement? Comment on fait? Je pose cette question parce qu'aujourd'hui, et en fait c'est ma prédication de ce matin, je parlais du relativisme. le relativisme moral qui a une influence du monde, où aujourd'hui, et peut-être même des croyants, hein, pensent que la spiritualité, le chemin avec Dieu, c'est comme une montagne. Peu importe le chemin qu'on prend, on finira tous par arriver au même sommet, qui est Dieu. Toutes les routes mènent à Rome, mais aussi à Dieu. C'est un peu ce que notre société croit, et chacun fait sa propre soupe. Avec Dieu, des fois pas du tout avec Dieu, des fois on met un peu de christianisme et puis on met un peu autre chose, et puis on va picorer là où ça nous chante. En fonction de notre humeur, en fonction de qui nous sommes, de notre culture, de notre vécu. Mais si toutes les routes se valent, alors personne n'est jamais égaré. Et du coup, Jésus, pourquoi il serait venu ? Ça n'a aucun sens. Le livre des Juges, d'ailleurs, nous montre ici le contraire, hein, c'est que quand chacun choisit sa propre voie, on ne finit pas au sommet, on finit dans le chaos de la vallée. Chacun a son propre Dieu, a son propre maître. Et le relativisme, quelque part, il nous dit que toutes les routes se valent, mais que la réalité, elle, nous montre que certaines routes mènent droit dans le mur. Pour revenir un peu sur ce contexte, je vous ai mis le dernier verset du livre des Juges. Le livre des Juges, quelque part, c'est un livre qui est cyclique. C'est un peu la même histoire qui se répète. On a le peuple d'Israël qui s'éloigne de Dieu. Dieu qui va discipliner, qui va reprendre ici son peuple à travers un juge. Du coup, une personne qui va faire lever. Et parce que le peuple crie quelque part à Dieu. Dieu va délivrer du coup son peuple à travers ce juge. Et ça recommence. Le peuple s'éloigne de Dieu, et quelque part, il va recrier à Dieu, et ceci durant chaque cycle des juges, et en fait, c'est cyclique tout en étant dramatique. Ça veut dire qu'à chaque juge qui s'enchaîne, les juges eux-mêmes sont de plus en plus mauvais. Et on va terminer l'histoire des juges, bon, vous le lirez, hein, dernier chapitre, il est terrible. Il est terrible puisque du coup, il y a des drames qui s'enchaînent, et à la fin, il n'y a plus personne. Et ce verset, il va résumer tout cela, on est tout à la fin du livre, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de juge non plus, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. En lisant ce verset, on ne croirait pas que c'est négatif. Et pourtant ici, c'est Dieu qui ne règne plus. C'est mon premier point, quand Dieu ne règne plus. C'est ce verset, je l'ai surligné, quand il n'y avait, voilà, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Ce n'est pas d'abord un problème politique ici. Ce n'est pas l'absence d'un roi humain. Le vrai roi à l'époque d'Israël, c'était Dieu. Mais le problème, c'est que le peuple refuse la soumission au roi divin, refuse la soumission à Dieu. Et le relativisme, quelque part, il commence quand Dieu ne décide plus. Quand nous savons qu'il est là, et que dans nos vies, il décide plus. On a une histoire dans la Bible qui illustre cela, c'est dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 8, c'est Israël qui ne veut plus être différent des autres peuples. Israël, à ce moment-là, du coup, n'a pas de roi, comme là. Mais on est bien après. Et il voulait ressembler aux autres peuples. Le peuple va dire à Dieu, nous voulons être comme les autres nations. Ils veulent plus que Dieu les distingue. Ils veulent que, quelque part, l'influence du monde commence quelque part par là, en ayant quelque part un chef. Un roi. Au lieu d'être distinct des autres peuples, une nation sainte mise à part, le peuple d'Israël va rentrer dans un autre cycle et Dieu va répondre. Va répondre à cela. Ce n'est pas forcément ce qu'il veut, mais Dieu laisse les hommes libres. Libres de leur choix. Tout en avertissant. Hein. Si vous vous rappelez bien de ce passage, Dieu va avertir des conséquences. Que le roi, du coup, aura une main mise sur eux, qu'ils vont souffrir. Mais les Israélites vont dire, c'est pas grave. On veut faire comme les autres. Je nous pose cette question ce matin. Qui règne dans mes décisions ? Est-ce que je consulte la parole ou est-ce que c'est mon ressenti, quelque part ici, qui décide dans ma vie ? Et une autre question, est-ce que Jésus est sauveur seulement ? En général, on est tous d'accord là-dessus. Jésus qui est sauveur, on l'accepte. Mais est-ce qu'il est Seigneur dans nos vies ? Je vous pose la question, quelle est la différence entre un Jésus sauveur et un Jésus Seigneur ? À votre avis, c'est quoi la différence ? Jésus sauveur, c'est quoi ? On va commencer par ça. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait du coup ? Un Jésus, Dieu qui sauve. C'est le salut, donc il y a le pardon, tout à fait. Autre chose ? Il couvre nos péchés de manière concrète, du coup. Qu'est-ce qui découle de ça? C'est vrai, c'est juste. Hein. Ouais. Transformation du cœur. Tout à fait. Ouais, libération. Du coup, on a un Dieu qui console, qui aide. C'est tout cela, en fait. La croix, Dieu qui sauve, c'est... pas Alors, ça commence, bien sûr, hein, c'est par le péché, mais aussi dans nos vies quotidiennes. Quand nous traversons des épreuves, on a un Dieu qui sauve, qui libère encore. Et ça, tout le monde le veut. Mais amen, on a un Dieu qui est comme ça. On ne va pas renier cela. Notre Dieu est comme cela et amen. Et un Dieu Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est vrai. Vous aimez bien l'abstrait, c'est très bien. C'est juste, hein. Mais concrètement, du coup, dans nos vies, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut s'en remettre à lui, ouais. Être dépendant de lui. Ah là, c'est autre chose. Soumis. Tout ça, c'est juste, hein, ça rentre dans le roi des rois, mais là, du coup, c'est plus concret. Là, tout de suite, ah, on est moins... On dit moins amen à tout cela. Obéissant, voilà, c'est tout cela. C'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui décide, et c'est Dieu qui a autorité. Quelqu'un a cité, c'est très juste, hein, le terme soumission. On en parlera, la soumission à Dieu. Alors, un terme qui est galvaudé dans notre société. Hein. Mais la Bible en parle autrement. Mais la soumission, quelque part, c'est écouter. Écouter avec respect. Ne pas dire, oui, mais moi, je pense que. Et bien souvent, nous, chrétiens, et je ne parle pas des gens qui ne sont pas chrétiens, je parle de nous, chrétiens. Hein. Je ne parle pas des non-chrétiens, ici. Nous, chrétiens, nous acceptons un Jésus qui sauve, mais pas un Jésus qui règne. Un juste Seigneur, on va le chanter, comme ce matin, mais dans nos vies, est-ce que nous le vivons vraiment? Et honnêtement, mes frères et sœurs, je pense que pas tout le temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que je prêche ce matin, c'est que quelque part, le relativisme moral, c'est ça l'influence du monde. Je prends ce qui m'intéresse. Comme le peuple qui prend ce qui l'intéresse, chacun fait ce qu'il veut, nous pouvons aussi ce matin faire ce que nous voulons. Seigneur qui est roi, nous pouvons le chanter, nous pouvons le dire. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le vivre. C'est ce que Jésus va marteler pendant ses 3 ans de ministère. Jésus qui est Seigneur signifie qu'il a le dernier mot sur ma vie, même quand ça me dérange. Même quand je ne comprends pas tout. Même quand c'est contraire, et là je touche à un point sensible peut-être, je vais pas en parler ce matin, mais même quand ça touche à ma culture. Ma culture est soumise à la culture du royaume de Dieu. Je ne peux pas me cacher derrière juste c'est ma culture, non. Et quelque part, c'est passé de Jésus m'aide dans ma vie, et amen, Jésus m'aide dans ma vie, j'espère que vous l'expérimentez cela, à ma vie appartient à Jésus. Et là, c'est beaucoup plus fort. Ma vie appartient au Maître. Deuxième point, quand je deviens ma propre norme. C'est la suite du verset. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le mot-clé ici, c'est semblait. Ce qui semble bon, n'est pas forcément bon. Je l'ai résumé un peu ceci. Le relativisme, quelque part, ce n'est pas toujours, d'ailleurs, rejeter Dieu, c'est adapter Dieu à soi, en fonction de nos contextes, de nos situations. On a une autre illustration dans la Bible, c'est avec le roi Saül, roi d'Israël. Dieu va lui donner à un moment une instruction dans 1 Samuel 15, une instruction très claire. Saül décide de ne pas obéir complètement. Il obéit, mais pas complètement. Il va garder une partie de ce que Dieu avait demandé de détruire, et il va dire « j'ai obéi ». Quand le prophète va arriver, le prophète Samuel, il va dire à Samuel « j'ai obéi », ce qui n'est pas faux. Mais il ajoute « j'ai gardé le meilleur pour Dieu ». Alors que Dieu n'a rien demandé. Saül a fait quelque part, il a sélectionné. Il n'a pas désobéi complètement, mais il a fait comme lui pense que Dieu peut faire. En plus, c'est très spirituel ce qu'il va dire, j'ai gardé le meilleur pour Dieu. Ce qu'il devait détruire, finalement, il devait tout détruire, il va garder une partie, pas pour lui, pour Dieu, c'est ce qu'il va dire. Cela semble spirituel, mais Samuel d'ailleurs va répondre tout de suite. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il vaut mieux obéir quelque part que faire semblant. D'obéir à Dieu, de faire de faux sacrifices quelque part. En clair, Dieu ici ne veut pas qu'on adapte ses ordres à notre convenance. qu'on adapte ce qu'il demande de nous à ce que nous, nous voulons. Alors concrètement, voilà, vous savez, j'aime pas trop parler dans le vide. Concrètement pour nous, ce matin, chacun sa route, chacun son chemin, qu'est-ce que cela donne pour nous, chrétiens? J'ai cité quelques exemples, voilà, je vise personne, hein. J'ai pensé à personne d'ailleurs. J'ai essayé de trouver des exemples pour nous qui peuvent nous parler de ce piège de l'influence du relativisme dans nos vies chrétiennes. La liste n'est pas exhaustive, si vous en avez d'autres, ben voilà, vous pourrez les mettre. Premier exemple, je pardonne, parce que Dieu demande de pardonner, mais pas à cette personne. Lui, c'est pas possible. Et Dieu comprendra, parce que j'ai déjà pardonné à lui, à lui, à lui. Ça, c'est le relativisme. J'obéis à Dieu, et en plus, ma conscience, quelque part, des fois, elle ne me travaille même pas, parce que j'ai l'impression d'obéir à Dieu. Mais je choisis ce que je veux. Deuxième point, je crois à la fidélité dans le couple, mais dans mon cas à moi, c'est différent. Dans mon cas à moi, allez, Dieu connaît ma situation, je souffre, bref. Plein d'autres sortes d'excuses qu'on peut s'inventer, en pensant que Dieu, quelque part, ici, va nous comprendre. Va comprendre notre raisonnement. Je crois à l'engagement et au mariage, mais aujourd'hui, tout le monde vit ensemble sans s'engager officiellement, alors c'est pas grave, c'est l'époque qui veut ça. Mais j'aime Dieu, hein. J'aime Dieu de tout mon cœur, c'est pas un problème. Ça, c'est du relativisme aussi. Je crois qu'il faut aimer, on a eu une parole ce matin, hein, de notre frère Gilles, aimer son prochain. Je crois qu'il faut aimer, mais pas cela. Certaines personnes, je peux pas. Comment le Seigneur peut faire en sorte que j'aime? Pas possible, cela. Et du coup, je vais me cacher derrière des excuses. J'ai pas encore atteint ce niveau de sanctification, donc plus tard, je les aimerai. Dieu me donnera la force de les aimer. Et du coup, on repousse, et du coup, on n'obéit pas à Dieu. Vous voyez, le relativisme, c'est un peu piégeux, puisque c'est pas dire je veux pas. C'est accepter quelque part, mais une partie de ce que Dieu dit, mais dans nos vies, on sélectionne. Dernier exemple, je donne à Dieu, mais je garde le contrôle de mes finances. L'argent est important pour moi, et je vais le défendre de différentes manières. Hein. Et du coup, même là, et puis là, on touche à un autre sujet, qui est du coup la place de l'argent, quelque part dans nos vies, une idole, hein, que le Nouveau Testament va parler. Le relativisme, quelque part, c'est sélectionner les commandements de Dieu, c'est dire, je prends ce qui me convient. Ça, c'est le relativisme pratique. De manière concrète, et j'espère que c'est pas votre cas ce matin, mes frères et sœurs, c'est j'écoute une prédication et je filtre. Et quand ça m'atteint, je pense, à lui, ça concerne mon voisin. Lui, ça colle bien à lui. Pour éviter que moi-même, je me remette en question. Le cœur de l'homme, c'est la Bible qui le dit, hein, est tortueux. Le cœur est tortueux. Dans quel domaine, je nous pose la question, mes frères et sœurs, disons-nous à Dieu, oui, mais est-ce que j'obéis à Dieu et à sa parole, même quand elle me dérange, même quand elle impacte ma vie? Et cette parole, quelque part, elle est là pour guider notre vie. Le monde nous apprend, suis ton cœur, fais-toi confiance, personne ne peut te dire quoi faire, suis ton chemin. Le prophète Jérémie, lui, il va dire ce que j'ai dit tout à l'heure, le cœur de l'homme est tortueux. Sans Dieu, quelque part, l'homme est perdu. Et la sanctification que Dieu demande exige la soumission, l'obéissance, l'alignement à Dieu. Alors c'est sûr que ça fait pas vendre. Ce matin, ça fait pas vendre du tout. Mais c'est ce que Dieu présente. Et ce projet de Dieu, quelque part, pour nous, c'est pas pour nous embêter. Quelque part, c'est pour que nous, êtres humains, nous ne nous enfonçons pas dans notre propre malheur. Dans le propre chaos, comme le peuple d'Israël à l'époque, qui à l'époque pensait qu'il s'en sortirait, et qui s'est enfoncé au fil des années dans le chaos. C'est mon dernier point, quand la norme disparaît, quand la norme de Dieu disparaît, le chaos s'installe. Récemment, et peut-être que vous avez reçu ça les parents, si vous avez des enfants à l'école, j'ai reçu un courrier de l'école de ma fille, Clémence, que vous avez dû recevoir, sans doute, et j'ai relevé une phrase. L'école repose sur un ensemble de principes et de valeurs qui ne sont ni amendables ni négociables. Et cette lettre a parlé de la montée de la violence dans l'école et du besoin de rappeler des règles non négociables pour protéger les élèves et un rappel aux parents. La responsabilité des parents. Et du coup, même l'école reconnaît qu'on ne peut pas fonctionner sans normes claires, ni amendables, ni négociables. C'était marqué en toute fin, une phrase. Je pense que c'est sensible comme sujet. Mais quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'éducation, c'est pas chacun des parents qui fait ce qu'il veut. Moi, j'estime que je fais comme ça. L'autre estime qu'il fait autrement. Chacun estime qu'il fait autrement. Et du coup, on a une société aujourd'hui qui est complètement disloquée. Chacun sa route, chacun son chemin. Une société quelque part sans repère commun devient fragile. Et quelque part ici, c'est ce que Dieu ici dénonce. Et c'est ce que Dieu désire comme contraire. Même nos institutions reconnaissent qu'une société ne tient pas sans règles communes et sans respect de l'autorité. Et combien plus à l'Église ? À l'Église, l'Église ne peut pas tenir si chacun fait ce que bon lui semble. Et le livre des juges nous rappelle cela ce matin. Nous ne pouvons pas nous regarder juste à nous-mêmes. Nous devons regarder quelque part à ce que Dieu demande et aux autres. Nous vivons ensemble. Dans les derniers chapitres du livre des juges, là dans ce chapitre 21, on va voir ce chaos qui va s'installer. Là je vous ai mis le verset le plus soft. Mais vous relirez les derniers chapitres. On va voir un homme qui va apparaître, qui va créer sa propre religion chez lui. Un prêtre, un autre, qui va accepter de servir pour de l'argent. Il a complètement changé. Lui, c'est pas Dieu maintenant qui sert, c'est l'argent. On va voir une femme, ça c'est terrible cette histoire, qui va être livrée à la violence. Elle va être découpée et distribuée à chaque tribu. Vous lirez l'histoire, hein. Elle est assez horrible, et pourtant, c'est la fin du livre des juges. Chacun fait ce qu'il veut. Et quand il y a un meurtre, au lieu de dénoncer, chacun juge comme il veut. On va voir aussi une guerre éclater entre tribus du même peuple. Dans ce même peuple d'Israël, qui comporte 12 tribus, une guerre va éclater. C'est terrible. Alors que les ennemis sont là, hein, toujours là autour, ils vont se chamailler. Parce que chacun sa règle. Chacun son chemin. Tout le monde agit selon sa logique, et plus personne ne se réfère à Dieu. Et quand Dieu ne fixe plus la norme, c'est la violence, c'est le chaos, c'est la confusion, c'est la peur, c'est la division qui s'installe. Ce n'est pas la liberté comme on pourrait le penser, c'est le désordre. Et la liberté, quelque part, sans norme, produit ce chaos. D'ailleurs, c'est un des soucis de notre société. Alors, voilà, je vais pas faire de politique ce matin, c'est pire pas que ça, bien sûr, mais une société sans Dieu, quelque part, sans repère. Qui peut dire, du coup, là c'est bien, là c'est pas bien? Chacun a sa propre vision de l'éducation, chacun a sa propre vision de la vie, et de ce qui est bien ou de ce qui est pas bien. Et chacun fait ce que bon lui semble. Dès le début de la Bible, on a ce texte qui va parler de cela. Dans Genèse 3, alors que Adam et Ève sont là dans le jardin, le diable va arriver et il va dire à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit ? Satan ne bouscule pas tout, il fait douter, il relativise, il fait ce que le monde fait, il ne nie pas Dieu. Il remet en question la norme. Est-ce que la norme qui est là, on peut la redescendre alors ? Résultat des courses, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a la honte, rupture, il y a la souffrance. Et chaque fois que l'homme, quelque part, veut définir le bien et le mal, le jardin que Dieu veut dans notre vie devient un désert. C'est le désert qui est là. Et nous finissons quelque part dans le mur, dans l'incompréhension. Une incompréhension, mes frères et sœurs, encore plus terrible, puisque nous pensons obéir à Dieu. Sauf que nous sélectionnons. Bien souvent, nous remarquons quelque part que quand nous faisons comme cela, Nous finissons souvent frustrés, vides, et que les désordres de nos vies viennent parce que le trône n'est pas occupé par Dieu, mais il est occupé par moi. Le texte va dire ceci, il n'y avait pas de roi. Mais nous avons un roi. C'est Jésus qui est venu proclamer le royaume de Dieu est proche. L'évangile ici, mes frères et sœurs, si vous devez retenir peut-être quelque chose ce matin, c'est cela. L'évangile ne vient pas seulement pardonner. On a un Dieu qui sauve, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Il vient instaurer un règne. D'ailleurs, nous attendons le retour de Jésus qui viendra instaurer un règne. Nous avons un Dieu qui règne et qui veut régner déjà dès aujourd'hui. On ne peut pas séparer le Jésus qui sauve d'un Jésus qui règne. Les deux sont ensemble. Et la sanctification, quelque part, c'est laisser Jésus régner. Alors pour conclure, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vécu il y a quelques mois, là, en allant à Loudun. Voilà, je connais la route hein, pour aller à Loudun, mais alors je sais pas si vous faites comme moi, mais bon, moi je fais comme ça, je mets toujours le GPS. Mon GPS c'est Waze, je vous connaissez Waze, voilà, c'est un GPS hein, qui s'adapte en fonction de la circulation, et je le mets toujours même si je connais le chemin maintenant. Et donc je vais à Loudun, et en revenant, le chemin m'indique de passer par Montreuil-Bellay. Parce qu'il y a deux chemins pour aller à Loudun, et Montreuil-Bellay ça rajoute 10 minutes. Je me dis, monsieur, qu'est-ce qu'il me raconte? Je vais passer par derrière l'hôpital, c'est plus rapide. Pourquoi me rajouter 10 minutes? Qu'est-ce que je fais? Je coupe la voie de Waze, parce que sinon il me dit tourner à gauche, tourner pour me faire demi-tour. Je coupe sa voie, je coupe Waze, et je prends ma route habituelle. Et je suis confiant parce que devant moi, les voitures, elles vont dans le même sens que moi. Elles vont sur le chemin. Vous connaissez, c'est derrière l'hôpital, là. Qui passe par les vignes. Et on avance, et tout roule. Et arrivé près de l'hôpital, hein, donc le chemin est assez long, hein, arrivé près de l'hôpital, alors un peu avant sur les vignes, la route est bloquée, parce qu'il y a un poteau électrique qui est tombé. Les pompiers sont là, et là, devant, il y a une suite de voitures qui commence, et derrière aussi. Et là, voilà, pour faire demi-tour, c'est la galère, chaque automobiliste commence à s'énerver, parce que c'est le soir, chacun rentre de chez lui. Et résultat des courses, j'ai fait un détour. En plus, en voulant faire un détour, j'ai voulu prendre un autre chemin. Parce que j'ai pas rallumé mon GPS, parce que je me suis dit, non. je veux gagner quelque part. Du coup, je perds encore plus de temps sur des routes de campagne. À la fin, je le mets quand même. Et qu'est-ce qu'il me fait faire? Il me fait repasser par Montreuil-Bellay. À la fin, j'ai perdu 45 minutes. En plus du trajet, hein. Je rentre à la maison. Et en fait, je suis fatigué. Est-ce que, du coup, c'est la faute de qui, là? C'est pas la faute du GPS, hein. Le GPS, il m'a indiqué depuis tout le temps, puis il y avait la bonne voie, hein, tourner à gauche, tourner à gauche. Le fautif, c'est moi. Le chemin est indiqué, mais je me dis, je connais le chemin. Je connais mieux le chemin que lui. Je l'emprunte tous les jours. Pourquoi il veut me faire un détour? Au final, c'est moi qui perds du temps. Au début, tout baigne. Hein. Au début, je vous garantis que ça ne va pas arriver tout de suite. Hein. Et je ne sais pas si vous avez déjà arrivé ça, mais du coup, c'est frustrant. Ces vacances-là, j'ai failli faire la même chose. Ça bouchonnait bien. Et j'ai vu un chemin qui était parallèle. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je savais que voilà, c'est rallongé là, c'est ça rien de faire ça. Spirituellement, mes frères et sœurs, beaucoup en tant que chrétiens, et nous pouvons faire la même chose. Nous coupons notre GPS. Nous coupons la voie de Dieu. On connaît la destination, on sait où Dieu veut nous amener, mais on refuse la direction. La direction, on n'en veut pas. Et pourtant, pour aller à une destination, il faut prendre une direction. Il faut prendre des directions. Cette direction-là, il y a deux choix. Soit c'est nous qui prenons la décision, soit nous écoutons la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Et Dieu nous donne ici beaucoup d'outils. Il y a la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, mais il y a différents moyens aussi dont Dieu peut parler. Mais déjà, est-ce que nous obéissons à sa parole? Déjà. Ou est-ce que nous coupons notre GPS en disant « Oui, mais là, dans ma situation, c'est différent. Donc, j'écoute pas. » Et tout baigne. Tout baigne. Tout, au début, tout baigne. Toujours tout baigne. Et c'est à la fin. Quand on se prend un mur, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en tant qu'automobiliste, on fait demi-tour et on râle. En général, celui qui a fait le relativisme, il va râler contre Dieu. Contre le GPS. Pourtant, le GPS, il a toujours indiqué le même chemin. Et Dieu fait comme Waze. Alors voilà, c'est une comparaison limitée. Hein. Waze, dans ma voiture, quand j'écoute pas, il prend pas la direction de ma voiture. Hein. Il prend pas le volant automatiquement, il dit « Attends, tu fais n'importe quoi, c'est moi qui prends le volant et tu vas prendre par Montreuil. » Heureusement qu'elle fait pas ça d'ailleurs. Et Dieu fait pareil, quand nous ne voulons pas écouter, Dieu nous laisse. Dieu nous laisse, comme le peuple. Dieu laisse le peuple libre. Dieu veut, le peuple veut un roi, Dieu laisse le peuple avoir un roi avec les conséquences que ça aura. Jésus va rappeler ceci. Je suis le chemin. Jésus ne dit pas « Je vous indique le chemin », il est le chemin. Le seul chemin, quelque part, qui mène à Dieu, du coup, ce n'est pas chacun sa route, chacun son chemin. Ce chemin, ça doit être Dieu, Dieu lui-même. J'ai mis une phrase que j'avais lue de C.S. Lewis. Je ne sais pas si vous connaissez C.S. Lewis, c'est un auteur chrétien bien connu, qui va résumer du coup par, je crois que je l'ai mis Laïna. Il n'y a que deux sortes de personnes. Celle qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, et celle à qui Dieu dit finalement que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, ce matin, c'est peut-être le danger pour nous chrétiens. Dieu nous laisse libres de l'écouter pour que sa volonté se fasse en nous-mêmes si quelquefois on ne comprend pas tout. Ou que notre propre volonté s'accomplisse. Mais à la fin, ça termine toujours par la même chose. Les pleurs, les grincements de dents, les incompréhensions. Parce qu'un chemin loin de Dieu, ça ne mène nulle part. Et Dieu, dans sa bonté, dans son amour, nous laisse libres. Libres de choisir notre chemin. Notre monde dit « Sois ton propre roi ». L'évangile, lui, nous dit « Laisse le vrai roi te transformer ». Du coup, la question ce matin que je vous pose, ce n'est pas si vous croyez en Dieu. La question que je vous pose et que je nous pose ce matin, c'est qui décide? Dans nos vies ce matin, qui décide vraiment? Est-ce que c'est Dieu qui décide ou est-ce que c'est moi qui décide de temps en temps? C'est Dieu qui décide quand ça m'arrange et quand ça m'arrange pas, c'est moi qui décide. Peut-être une autre question. C'est quand la dernière fois que Dieu vous a frustré? Que vous étiez dans l'incompréhension face à ce que Dieu vous demande ou que quelque part Dieu vous demande quelque chose et vous avez du mal à obéir, mais vous le faites quand même. Parce que c'est Dieu qui demande. Ça permet d'avoir peut-être un peu une idée quelque part de voilà, où est-ce que j'en suis avec Dieu. Seigneur, sois le Seigneur de ma vie. Je sais que tu es le Sauveur, mais sois le Seigneur aussi de ma vie. Pose de courber nos têtes, que nous puissions prier. Oui Seigneur, viens nous faire grâce encore ce matin. Tu es ce Dieu qui est venu, c'est vrai Jésus, nous sauver et nous ne voulons pas renier cela. Et nous disons encore Amen à cela, mais tu es aussi celui qui est venu, qui vient régner dans nos vies. Ce Seigneur, qui veut encore notre bien, notre bonheur. Ce GPS parfait qui connaît le chemin. Parce que tu es le chemin, Père. Et ce matin que nous puissions ne pas vivre dans un compromis, dans le relativisme. Que ce monde ne puisse pas ici nous gagner, que chacun nous puissions ne pas avoir notre propre chemin. Mais un chemin qui est dicté par toi, Seigneur. Que nous puissions obéir à ce que toi tu nous demandes, à ta parole, Jésus. Viens nous aider. Dieu, tu connais nos cœurs, Jésus. Tu sais combien nos cœurs sont durs. Et combien, mon Dieu, nous avons du mal à obéir, à nous soumettre à toi, et que nous puissions ne pas vivre dans un compromis. Un compromis qui peut être confortable, mon Dieu, mais qui sera à la fin piégeux, mortel. Et encore, Seigneur, faire le ménage, viens reprendre encore le trône de nos cœurs. Et quand sur le trône d'ici, dans nos vies, ce soit pas toi et nous qui régnons, mais uniquement toi. Toi et toi seul, et quand dans les moments d'incompréhension, mon Dieu, dans les moments de difficulté, quand c'est dur d'obéir, que nous puissions simplement te faire confiance. Confiance que tu es un Dieu qui nous aime, et que c'est notre bonheur que tu veux. Et que même si nous ne comprenons pas le chemin ou les détours que tu nous fais prendre, tu es celui qui sait, qui connaît le chemin. Je te prie ce matin de venir nous aider, aider chacun ici présent. À vivre encore ce que toi tu veux, Jésus, viens Saint-Esprit encore travailler dans les cœurs. Toi seul es capable, mon Dieu, de forger le vouloir, le faire, de changer la volonté d'un homme et d'une femme, par ton amour encore qui bouscule les cœurs. Merci, Père. Amen.